France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est le premier jour du procès de Speedy ce soir.
So I gotta give a special thank you. My chief of staff, Christina Corum, KK, Lorianne Gibson, keeping me free. Also Cassie, for holding me down in the dark times. Love.
Didi, le 26 juin 2022, récompensé pour toute sa carrière au BET, le Black Entertainment Television, qui remercie notamment sa compagne Cassie. C'est une phrase qui a un sens très très particulier. Bonsoir David Alexander Cassan.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour Society, vous êtes le co-auteur d'une très grosse enquête qui s'appelle P. Didi, American Horror Story, dans Society. Donc cette scène, c'est l'ouverture de votre papier. On y reviendra parce qu'il y a deux personnes qui le citent, à la fois sa compagne Cassie et puis aussi un peu son âme damnée. On y viendra dans un instant. Votre enquête est passionnante. Je d'abord qu'on arrive à situer vraiment qui est ce bonhomme. New York, l'enquête nous emmène à New York, nous emmène à Los Angeles, à Paris, à Marrakech, dans les Hamptons. Il faut nous rappeler quand même la surface de ce personnage, P. Didi, avant sa chute. Rappeur, producteur, propriétaire d'un label, immense notoriété, immense fortune, incontournable. Hein. C'était vraiment quelqu'un d'incontournable dans ce milieu-là.
Absolument. P. Didi, pour la petite histoire et pour la statistique, c'était le troisième milliardaire de l'histoire du rap, après Jay-Z et Kanye West. C'était quelqu'un qui a percé un peu dans ce milieu-là en tant que producteur, qui est vraiment un des premiers producteurs à avoir
Parce qu'il avait un vrai pif, hein, pour dire les choses.
Complètement. En fait, il a vraiment très tôt su faire rentrer le rap dans le mainstream. Et ensuite, il est devenu, et c'est ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'il est devenu un rappeur très célèbre, sans être un rappeur particulièrement doué. Et en fait, ça a tout de suite montré que voilà, c'est quelqu'un qui avait qui a sans doute toujours une capacité à jouer avec les médias, à jouer avec ce qu'on raconte de lui et à faire parler de lui, en fait.
Alors, il s'appelle Sean Combs, en réalité. Il s'est appelé Puff Daddy, il s'est appelé P. Didi, Didi tout court, tout récemment, Sean Love Combs. Des fêtes immenses, on y vient en jet, qu'il affrète lui-même, un jet qui est à lui, qui est tout noir, avec un
Black
tapis,
Excellence.
Voilà, exactement, Black Excellence. Des fois, c'est même des très gros avions. Au fil de votre article, j'ai noté les noms qu'on voit passer. C'est Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams, Kanye West, Jack Dorsey, c'est l'ancien patron de Twitter, Kanye West,
Ivana
évidemment, Ivana Trump, Donald Trump, Marco Mouli, le fameux escroc carbone, Cathy Guetta, Jamel, Gérard Depardieu, Jean-Édouard, le gars du Loft. Ce que ça veut dire, c'est que les white parties, puisqu'il organisait des soirées blanches, d'abord à New York et puis ensuite en France et ailleurs, tout le monde y était et surtout tout le monde voulait y être. Il fallait y être de ces soirées blanches, en fait.
Voilà, il fallait y être et y être vu. Je pense que c'est là où on en revient à ce sens de la fête et ce sens de des relations publiques, en fait, vu qu'il convient d'appeler ça comme ça.
Avec Anna Wintour qui lance dans la mode aussi.
Graydon Carter.
Exactement, et puis effectivement, vous l'aviez dit, mais il y a Donald Trump, Bill Clinton, enfin tout le carnet d'adresses va très très loin. Et ce qu'on comprend en vous lisant au fil des pages, c'est que dans ces soirées, tout le monde voit. Tout le monde voit les filles qu'on amène dans des pièces à part. Notamment, il y a un témoignage de Marjolaine Buis, qui est mannequin, qui fait de la télé-réalité maintenant. Elle dit qu'elle s'enfuit. Personne ne dit rien. Il fait peur, il intimide. Déjà ça, de toute façon, tous ceux qui participent à ça, en tout cas d'un peu près, le sentent autour de ce personnage-là.
Alors, c'est une question qui est très compliquée, en fait, parce que il y a les soirées blanches, où on va pour voir et être vu, et il y a les freak-offs. Et les freak-offs, c'est ceux dont on va parler dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui.
Qui s'est ouvert, qui a commencé.
Qui a commencé. Alors, aujourd'hui, c'est la sélection du...
Des témoins.
La sélection des témoins.
Du jury, pardon. Ouais.
Voilà, et je crois que les déclarations liminaires, c'est la semaine, c'est prévu à partir de lundi prochain. Mais du coup, là, on va pouvoir en fait faire la distinction entre ces soirées blanches qui étaient des soirées fondamentalement publiques et les freak-offs qui ont quand même été cachés pendant toutes ces années-là. Et c'est parce qu'il était puissant et c'est parce que quand il était sous le feu des projecteurs, il était cette espèce de personnage complètement emblématique, de nabab, on dit mogul en anglais, mais c'est ça, de nabab du hip-hop. C'est parce qu'il était ça dans la lumière que dans l'ombre, on ne pouvait pas raconter ce qu'il faisait.
Alors avec une ombre que vous racontez aussi quand même, avant qu'on vienne effectivement à ce pourquoi il est en procès, c'est très impressionnant, il manie les flingues, on meurt autour de lui, enfin, alors c'est pas lui qui tue, hein, mais enfin on voit bien l'ambiance qu'il peut y avoir autour, Tupac, Notorious B.I.G. qu'il a produit.
Bien sûr.
Il y a une histoire de fusillade, notamment dans un club à New York, où il fait porter le chapeau à l'un des jeunes hommes qui est là, qui a pris 10 ans de tôle quand même. Hein.
Ouais, bien sûr, mais aujourd'hui Shine s'est bien remis, vu qu'il fait une carrière politique assez remarquable au Belize.
Chez lui, ouais.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a su rebondir, mais en fait oui, effectivement, quand on disait en introduction que c'était un producteur de génie, les gens qui l'a produit ont quasiment tous mal fini. Il y en a un que moi j'aimais beaucoup qui est parti, qui a fini dans une secte où il a fini par mourir du sida dans l'anonymat le plus total. Il y a Shine qui a fait 10 ans de prison, comme vous le disiez. En fait, il y a un truc qui fait que être proche de P. Diddy, on finit souvent en prison un petit moment ou au cimetière.
Alors, on a choisi de mettre en avant, donc tout à l'heure, pour ouvrir cette conversation, son discours au BET Awards de 2022, parce qu'effectivement, c'est la dernière fois qu'il est ce qu'il est, en fait, hein, qu'il est en vedette. Et puis, c'est là que commence votre papier, parce que c'est aussi là que sa gloire tombe. Sa compagne qu'il cite, Casey, en lui disant « Casey, je t'aime », elle s'appelle Cassandra Ventura. C'est elle qui porte plainte, et c'est là que ça commence, en fait. Il a fallu la plainte de Casey d'abord pour que les autres arrivent en cascade.
Oui, alors ce qui se passe, pour être précis, c'est encore plus pervers que ça, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Casey, c'est en entendant le discours que vous avez passé, c'est en entendant ce discours qu'elle se décide à porter plainte, parce qu'elle dit en fait qu'elle a trop souffert et qu'elle peut pas en plus voir le docteur Jekyll se pavaner en tout cas jouir de son affection comme ça devant tout le monde. Du coup, elle va porter plainte, mais en fait, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que cette plainte va être gérée à l'amiable.
30 millions de dollars.
C'est ce qu'on dit, c'est une estimation, mais contre soi-disant 30 millions de dollars. Et en fait, c'est quand une vidéo va faire surface, je crois que c'est CNN qui va la diffuser en premier, de Diddy en train de frapper Casey dans un couloir d'hôtel. Donc c'est une vidéo qui date de 2016, mais qui va sortir au printemps 2024. Et c'est en fait là que les plaintes vont s'accumuler. Et que finalement, c'est pour ça qu'on a l'ouverture du procès fédéral aujourd'hui, où Casey pourra être appelée comme témoin, même si elle a signé des fameux accords de confidentialité au moment de la première plainte.
Alors lui, il plaide non coupable pour tout. Il est accusé de viol en réunion, d'attouchement, d'agression sexuelle sur des femmes, sur des hommes, de trafic sexuel, de trafic de drogue. Est-ce qu'on le compare à Harvey Weinstein ? Est-ce qu'on le compare à Jeffrey Epstein ? C'est quoi la colonne vertébrale de ce personnage-là ?
Alors moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très différent entre ce personnage-là et les deux personnages que vous avez cités avant, c'est que P. Diddy est quelqu'un qui a beaucoup de gens. Il se trouve que moi et d'autres amateurs de rap à l'époque n'étions pas particulièrement fans du personnage, parce qu'il représentait aussi un tas de choses qui fait qu'il n'avait pas que des fans dans le monde du rap. Mais en tout cas, contrairement à Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein, c'est quelqu'un qui a des fans, quoi. Aujourd'hui, à l'ouverture du procès à Manhattan, il y a des gens qui étaient présents avec des t-shirts. En fait, c'est un personnage avec qui les gens, par le truchement de la célébrité, ont établi des connexions, ont créé une relation. Et il me semble que pour ça,
malgré les plaintes, cette connexion, elle continue, en fait. Ça veut dire que l'emprise qu'il peut avoir, il peut l'avoir aussi sur ses fans. C'est ça que ça veut dire aussi, qu'il ne croit pas une seconde. Parce que des plaintes, j'ai lu des chiffres absolument hallucinants. On est autour de 100 ou 120. J'ai même lu des chiffres qui montaient jusqu'à 500. Enfin,
alors, il faut faire attention, parce qu'en fait, on est des avocats des parties civiles qui ont intérêt à avoir le plus possible d'affaires à porter au civil. En fait, là, il faut faire un petit distinguo, parce qu'en fait, là, ce qui commence aujourd'hui, c'est le procès criminel, donc le procès fédéral. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'image. On a à peu près les mêmes règles qu'en France. On peut pas filmer dans les prétoires. Du coup, ça commence aujourd'hui. Mais une fois que le procès fédéral sera terminé, qu'en fait, l'État américain va déterminer si oui ou non Diddy est coupable de ce dont il est accusé, alors on a les procédures civiles qui vont commencer. Et ça, ce sera a priori à partir de l'automne. Et pour l'instant, on a 70 plaintes, plus de 70 plaintes, c'est ce qui est estimé, mais on a des avocats de la partie civile qui, effectivement, parlent de centaines et de centaines de potentielles plaintes.
Après, ce qu'il rapproche un peu quand même d'Epstein, c'est sa garde rapprochée. Tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, il remercie aussi une femme qui s'appelle Christina Corman, dont on dit, c'est ce que vous dites aussi dans votre papier, que...
Quelle est la Ghislaine Maxwell
Exactement, quelle est la Ghislaine Maxwell. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop si elle la mène des filles ou si elle préserve de l'extérieur pour éviter que ça se voit, mais en tout cas, il est entouré aussi de gens qui préservent ce qu'il considère lui comme un mode de vie et que, évidemment, les plaignants considèrent eux comme de terribles agressions.
Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est là où, effectivement, les affaires se rapprochent et c'est là où il y a des questions qui se posent, mais qui, à mon sens, en tout cas, font écho avec l'actualité politique aux États-Unis, qui pose la question de est-ce que tout le monde est égal devant la loi ? Est-ce que la question s'est évidemment beaucoup posée avec des détenteurs de green card ou des gens qu'on a expulsés des États-Unis sans leur accorder le due process, l'égalité de tous devant la loi. Et en fait, la question que posent ces affaires-là, c'est un peu c'est un peu la question en miroir. C'est est-ce qu'une fois qu'on est assez riche, assez connu, assez puissant, est-ce qu'on a le droit de tout faire ? Est-ce qu'on est au-dessus de la loi ?
En tout cas, les avocats qu'il a choisis sont les grands meilleurs avocats de la place de New York. Est-ce que quand même, on se dit qu'une fois que la boîte de Pandore est ouverte, il peut en entraîner dans sa chute Pididi ou pas ?
Alors, c'est ce que tout le monde se dit. Pour l'instant, on ne sait pas qui va être appelé à témoigner par le procureur. On a 4 victimes qui sont encore anonymes, mais qui sont sur lesquelles sont basées les affaires qui vont être jugées. Donc on sait que ces victimes-là vont parler, on ne sait pas encore de qui il s'agit, et on ne sait pas qui va être appelé à la barre, et est-ce qu'il y aura effectivement d'autres célébrités, est-ce qu'il y aura parmi toutes les célébrités qui ont été mentionnées jusqu'ici, est-ce qu'elles seront là ? Moi, là, tout de suite, on n'est pas
On dit, par exemple, au fil de l'affaire, que Jay-Z a eu très chaud un moment, par exemple, dans sa proximité. C'est une réalité, ça, ou pas ?
Alors, sur Jay-Z, il y a une chose, en fait, c'est qu'il y a une plainte. Alors, comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup de ces plaintes qui sont d'abord faites par des personnes anonymes et qui peuvent porter contre des co-conspirateurs, eux aussi anonymes. Et il se trouve qu'il y a une plainte qui a fuité, je crois que c'était au début 2025, qui mentionnait nommément Jay-Z. Et en fait, la défense de Jay-Z a été de dire qu'il avait été approché par cet avocat de la partie civile, qui est l'avocat qui représente le plus de victimes, qui s'appelle Tony Busby, qui est basé au Texas. Et Jay-Z a pris la parole publiquement pour dire qu'en fait, cet avocat l'avait contacté avant de formaliser la plainte pour lui proposer de s'en sortir contre un peu d'argent. Donc il y a une espèce d'offensive et de contre-offensive médiatique. Pour l'instant, on en est encore dans ces jeux médiatiques. On a aussi, et c'est quelque chose qu'on avait essayé de traiter, qui est assez passionnant dans cette histoire, c'est que c'est une affaire qui est surtraitée par les réseaux sociaux, qui est très investie par les réseaux sociaux. Donc en fait, il y a beaucoup de rumeurs.
Et beaucoup de fakes.
Voilà, beaucoup de fakes. Et on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que quand on a fait cette enquête de Society, un des intérêts pour nous de l'enquête, c'était de dire... On reçoit tous des Reels TikTok, des tweets, je ne sais quoi. On a besoin d'avoir un récit un peu factuel de cette affaire.
Après, qu'est-ce que ça dit dans le milieu du rap ? Parce que là aussi, la boîte de Pandore y a été ouverte. On a souvent dit, je le redisais tout à l'heure, que MeToo n'est pas passé par le milieu du rap, ou pas tellement. Je vous vois faire un peu la moue, pas tellement quand même. Il n'y a pas eu d'affaire de Weinstein dans le milieu du rap. Est-ce qu'on a ouvert cette boîte de Pandore-là ? Est-ce qu'il y a une boîte de Pandore à ouvrir, selon vous, ou pas ?
C'est honnêtement assez difficile à dire. Je pense qu'on peut espérer que ce procès, encore une fois, parce qu'on sortira du règne de la rumeur. Il y a quelque chose qui m'a marqué, si on veut parler du milieu du rap, c'est qu'en fait, les accusations, mais qui parfois sont des insinuations contre Didi, celles qui ont le plus marqué, c'est souvent quand elles concernaient des garçons. Et voilà, qui en fait renvoient à un autre problème.
Jeune homme de chez Macy's, notamment, une histoire terrible. Hein, je laisse les gens découvrir. Mais
Ouais, pour une histoire de présentoir dans le magasin, magasin de Macy's.
Une histoire totalement futile.
C'est fou, mais il y a aussi, si on parle de la rumeur, il y a le fait que la personnalité sans doute qui a été le plus associée à Didi dans cette histoire, c'est Justin Bieber. Et ça renvoie à tout ce qui est encore pas traité dans le milieu du rap en termes de violence sexuelle.
Le procès a commencé aujourd'hui, il risque gros, hein. Il peut risquer sa vie en prison, Pididi, ce sera à suivre en tout cas, et votre enquête, David-Alexander Casson, à laquelle vous participez, vous êtes nombreux, elle est à lire dans l'excellent magazine Society. Merci beaucoup.
Merci.
La suite, ce soir, ça se passe à Valence, en Espagne, 6 mois après les inondations. Vous allez voir qu'on attend toujours l'ascenseur dans beaucoup de quartiers. Pour aller jusqu'à 19h, la bande habituelle, c'est Kevin Dufresne, sous les radars.
Et bien en Jordanie, la cité antique de Petra, là aussi, les pieds dans l'eau.
Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On va tenter d'évaluer l'effet de Trump après une série d'élections récentes dans le monde.
Et la BO du Monde, c'est Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir. Les artistes irlandais s'engagent pour la cause palestinienne. Ils le font savoir bruyamment, quitte à susciter la polémique. C'est le cas des rappeurs du groupe NICAP.
Allez, à tout de suite les amis. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Loin de là, il passe par Londres avec Lola Young, Wish You Were Dead. C'est dans la playlist de France Inter. Can you come around? Fuck me nice. Pull my hair. Sing me lullabies. And we can pretend that we're in love. When you come.
Otra cosa es a lo mejor a los comercios y no sé qué, supongo que habrá ayudas a los comercios.
Le reportage d'un jour dans le monde ce soir retourne à Valence, en Espagne, 6 mois après les terribles inondations qui ont dévasté la région, 228 morts, souvenez-vous, et des dégâts matériels inquantifiables. La population en veut surtout à ses dirigeants, notamment le président de la région, qui n'a pas averti à temps de la catastrophe qui s'annonçait. Des manifestations d'ailleurs continuent de rythmer l'actualité politique de Valence. Et en même temps, le territoire se reconstruit, les routes, les chemins de fer, tout ça est à nouveau en état de marche. Une grande partie des 120 à 140 000 automobilistes qui ont été privés de voiture ont pu en racheter une autre grâce à des aides. 800 000 tonnes de déchets ont été ramassées, tenez-vous bien, c'est l'équivalent de 6 ans de poubelle. Et puis, il y a tout ce qui n'avance pas assez vite, notamment une chose qui cristallise les frustrations, les ascenseurs. 7000 ascenseurs ont été mis hors service, la moitié ne fonctionne toujours pas, et le reste, c'est Mathieu de Taillac qui raconte.
Dans les rues de Benetoussel, en banlieue sud de Valence, il reste des taches de boue, bien sûr, et puis une moto hors service, abandonnée sur un trottoir. Mais la ville dortoir est propre et en état de marche. La circulation a repris, l'essentiel de l'activité aussi. Il faut pousser les portes des immeubles pour connaître ce qui continue d'aller mal. Les ascenseurs, par exemple. Seule la moitié à peu près des 7000 endommagés par les torrents ont été réparés. On voulait écouter les parents de Rabiel, octogénaire coincé au 4e étage, mais leur fils préfère qu'on les laisse tranquilles.
Mais maintenant, mes parents sont en un moment...
Mes parents, c'est devenu impossible de leur parler. Ils sont désespérés. Depuis bientôt 6 mois, ils ne sont pratiquement pas sortis de chez eux. Imagine la situation. Mardi dernier, j'ai accompagné mon père à l'hôpital faire un scanner à 7h du soir. Comme il y avait un match du Real Madrid, on en a profité pour le regarder dans un bar. Il aime bien le foot. Pour une fois qu'il sort de chez lui, je lui ai dit « Allez papa, on va voir le match ».
T'as
pas idée de la difficulté ensuite pour monter au quatrième étage. Mon père a un cancer. C'était comme un enfant, il fallait le prendre, l'empêcher de tomber en arrière, lui servir d'appui, petit à petit. T'en fais pas, papa, on n'est pas pressé.
L'urgence, c'est de retrouver une vie normale. Les habitants ont appelé l'équivalent de leur syndic professionnel. Certains se sont fâchés contre eux. En réalité, ils sont tous débordés. Sébastien Cucala est le président de l'organisation de ceux qu'on appelle en Espagne les administrateurs des propriétés.
C'est comme s'il y avait eu une guerre. Du jour au lendemain, tu passes d'avoir tout qui fonctionne normalement, à une situation où tous les services de base sont détruits. Nous, on a l'habitude de gérer plusieurs immeubles en même temps, des travaux chez les uns, un ascenseur à changer chez les autres, on cherche le financement, on cherche des fournisseurs disponibles, etc. Mais là, tous tes clients ont besoin de toi en même temps.
C'est l'une de ses consoeurs qui nous fait visiter un immeuble à Catarroja, une autre commune de la banlieue sud, Yolanda Esteve.
L'ascenseur est là, il ne fonctionne pas. Il était au rez-de-chaussée quand la vague est arrivée et évidemment, elle a complètement détruit la cabine. La réparation de cet ascenseur coûte 23 000 euros. Tout est bousillé. C'est surtout la cabine et les appareils qui sont dans la fosse. La machine est en haut dans ce type d'installations anciennes. Mais dans la fosse de l'ascenseur, il y a les poulies, par exemple. Le problème ici, c'est qu'il y a un sous-sol. La fosse de l'ascenseur est au sous-sol. Et le sous-sol était plein de boue pendant 2 mois et demi. Et si le sous-sol est plein de boue, les techniciens ne peuvent pas voir quels sont les dégâts.
Les techniciens, justement, sont représentés par Emilio Carbonel, le président de l'association patronale du secteur, Asel Soval. Il y a 2000 ascenseurs à remplacer intégralement.
Ça veut dire le triple du travail d'installation habituel. Le processus, c'est voir ce qui s'est passé, évaluer l'installation, ensuite tu présentes un devis à la copropriété et il faut faire du sur-mesure. Ça dépend de l'année d'installation, de la technologie employée, de la législation en vigueur à l'époque, et puis on commande le matériel, les portes. En ce moment est en train d'arriver le matériel des installations dont les devis ont été acceptés en premier.
Les entreprises et la région se sont fixés un objectif. Les ascenseurs doivent tous être réparés d'ici la fin de l'année. Ce serait, pour les dizaines de milliers de personnes touchées, plus qu'un symbole, la réalité palpable du retour à la normale.
Mathieu de Taillac pour le reportage. Merci beaucoup Mathieu. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Terrible massacre.
C'est d'abord au Pérou que nous sommes, Kevin, où la violence des gangs semble sans limite.
Oui, depuis hier, toutes les télés du pays parlent du massacre de Patas, où 13 personnes ont été retrouvées mortes hier dans une mine, assassinées après avoir été enlevées quelques jours plus tôt. 13 personnes qui travaillaient pour une entreprise sous-traitante de Poderosa, une grande compagnie minière spécialisée dans l'extraction de l'or dans cette région des hauts plateaux du nord du Pérou. Dans un communiqué, Poderosa a tout de suite attribué la responsabilité de la tuerie à des mineurs illégaux, je cite, en collusion avec des éléments criminels, des gangs qui cherchent à terroriser les entreprises et les institutions pour faire main basse sur l'or et qui auraient pris le contrôle de la ville de Patas malgré l'état d'urgence instauré et la présence d'un gros contingent de police. Le maire de Patas doit rencontrer aujourd'hui la présidente péruvienne Dina Boluarte. S'il les gangs me tuent, le seul responsable sera le gouvernement central, a affirmé Aldo Carlos. Entre 2013 et 2023, les autorités péruviennes ont identifié plus de 8000 milliards de dollars de transactions soupçonnées d'être issues de l'exploitation minière illégale.
Et nous voici en Jordanie avec des inondations.
Dans un joyau de l'Antiquité, le site archéologique de Petra, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les célèbres parois de roches roses où sont taillés des temples monumentaux, se sont soudain transformés hier en cascades. Les images sont très impressionnantes, des torrents d'eau au pied des monuments. Au total, près de 1800 touristes se sont ainsi retrouvés pris au piège et ont été évacués par les équipes de secours et la défense civile de la région de Petra. Il n'y a pas eu de victimes dans cette zone. En revanche, 2 touristes belges sont morts dans la région de Choubac, au sud d'Amman, la capitale. Ce genre d'épisode est de plus en plus fréquent. Le changement climatique rend cette région semi-désertique plus sujette aux fortes pluies.
Et puis nous sommes en République tchèque, en pleine forêt, qui est aussi pleine de surprises.
Et oui, parce qu'alors qu'ils marchaient tranquillement non loin de la frontière polonaise, deux randonneurs sont tombés il y a quelques semaines sur un véritable trésor. L'un d'eux aperçoit ce qui ressemble à un vieux bocal en aluminium qui sort à peine de terre. Il le récupère, l'ouvre, et là, près de 600 pièces de monnaie, des étuis à cigarettes, une dizaine de bracelets, le tout en or. Et tout ça ne date pas d'hier. D'après les spécialistes du musée de Hradec, les pièces toutes en or massif viennent de France, de Belgique, d'Autriche-Hongrie ou encore de l'Empire ottoman frappé en 1808, entre 1808 et 1915. Rien que les pièces ont une valeur estimée à 300 000 euros. Le bocal a passé près de 100 ans enfoui là, puisque d'après les responsables du musée, il a pu être dissimulé par les nazis lors de l'annexion de la région dans les années 30. En tout cas, l'honnêteté de nos deux randonneurs qui ont tout de suite amené le trésor au musée sera récompensé, puisqu'ils vont recevoir une commission d'environ 10% de la valeur des pièces d'or. 30 000 euros la balade, c'est pas mal.
C'est pas mal, oui. c'est mieux qu'une chouette, presque. Allez, merci beaucoup, Kevin Dufresne. À demain, vous partez avec Rosemary Stanley. Une reprise des Beatles qui nous fait faire un détour par Liverpool. Because, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Stanley et sa version de Because des Beatles. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvan. How dare
you? The world has changed. Fabienne Synthès. Le 18-20.
Franck, le sujet Trump s'est invité dernièrement dans plusieurs élections à travers le monde avec des résultats contrastés. Ce soir, vous nous dites pourquoi le discours pro-Trump est plutôt un handicap en campagne.
Bon, la théorie ne repose que sur quelques scrutins, mais une tendance semble se dégager. Il y a d'abord les évidences. L'exemple le plus patent, c'est le Canada. Lundi dernier, les libéraux de McCarney ont frôlé la majorité absolue au Parlement, alors que le Premier ministre sort sortant, Justin Trudeau, de ce même parti, accusait 20 points de retard en fin d'année dernière sur le conservateur Pierre Poilievre, dont les accents populistes rappellent Donald Trump. Mais depuis son investiture, le président américain, vous le savez, s'en est pris régulièrement au Canada. Menace d'annexion, hausse des droits de douane. Trump est devenu un repoussoir et Carney en a profité. Il incarne la stabilité face à la tempête, un remède à l'incertitude et à l'imprévisibilité du voisin du Sud.
Autre exemple, Franck, l'Australie.
Élection législative avant-hier et large victoire des travaillistes du Premier ministre sortant Anthony Albanese. Contrairement à Carney, Albanese n'a pas explicitement fait campagne contre Trump. Le président américain, il faut le dire, n'a pas attaqué l'Australie. Il n'était pas au cœur de cette campagne électorale comme au Canada. Mais le chef des conservateurs, Peter Dutton, a vanté les mérites de Trump, un grand penseur à ses yeux. Il a semblé s'en inspirer en défendant notamment des coupes massives dans le secteur public. Et là encore, les électeurs ont opté pour la continuité. Les travaillistes ont obtenu une victoire d'une ampleur inattendue. On notera qu'en voulant singer Trump, Dutton en Australie et Poilievre au Canada ont aussi chacun été battus dans leur propre circonscription.
Et il y a d'autres exemples récents, pas ?
On peut citer Singapour, triomphe du parti sortant de centre-droit aux élections avant-hier. Succès attendu, mais pas dans de telles proportions. Les électeurs ont été rassurés par la formation au pouvoir qui n'a pas caché ses craintes de voir l'alliance entre Singapour et les États-Unis malmenée par Trump. En Europe, plusieurs partis populistes ou d'extrême droite revendiquent leur proximité avec le président américain. Et d'après une étude du European Policy Center, ces mouvements ne bénéficient d'aucun effet Trump dans les sondages. C'est même plutôt l'inverse en Hongrie ou aux Pays-Bas. En revanche, Donald Trump a libéré le discours de certaines formations qui se radicalisent parfois, par exemple sur l'immigration ou le protectionnisme.
Voilà, mais votre théorie, Franck, ne fonctionne pas toujours.
Alors, un contre-exemple, le Royaume-Uni. Le parti radical de droite Reform UK de Nigel Farage a fait une percée aux élections locales de jeudi dernier. Un siège de député en plus, des centaines d'élus dans les comtés, près d'un tiers des voix au total. Mais ce scrutin ne concernait qu'une partie du pays, difficile d'en tirer des leçons. Et puis, bien sûr, vous allez me dire, il y a la présidentielle en Roumanie. 41% au premier tour hier pour le populiste George Simion. Il affrontera au second le maire centriste de Bucarest, Nicu Șordan. Simion est un adepte de Trump. Il a assisté à son investiture, porte des casquettes MAGA et veut renforcer les liens avec les États-Unis. Hier, ça a marché. Il a dépassé les prévisions des sondages. Mais c'est le 18 mai, au second tour, qu'on pourra éprouver en Roumanie la théorie d'un Trump repoussoir électoral. Si le candidat centriste parvient à rassembler les anti-Simion, les anti-Trump, eh bien je ressortirai cet édito.
Ben ouais, comptez sur nous. Merci beaucoup Franck. À demain. La BO du monde, c'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait la planète en tournant.
France Inter, le 18-20.
Ce soir en Irlande, Cyril, où, qui est sans doute le pays d'Europe où le sentiment pro-palestinien est le plus fort. Depuis le 7 octobre, de nombreux artistes irlandais s'engagent pour Gaza. Le plus virulent d'entre eux, c'est un groupe de rap de Belfast qui se retrouve aujourd'hui en pleine tourmente.
Ce groupe, c'est Niqap, trois rappeurs nord-irlandais. On les avait découverts ensemble ici même, Fabienne, à la sortie de leur album l'an passé. Depuis, ils sillonnent la planète avec leurs textes très politiques, rappés en anglais et en gaélique, et un engagement pro-palestinien chevillé au corps. I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're deuce. I tell you, mark one push, my narrow backer be it while you're strapping you. C'est leur passage au festival Coachella en Californie qui a mis le feu aux poudres mi-avril. Sur scène, les trois musiciens keffiés autour du cou balancent ce soir-là des slogans « Fuck Israël » et dénoncent un génocide à Gaza.
Les Palestiniens n'ont nulle part où aller. C'est là qu'ils vivent et on les bombarde depuis le ciel.
Scandale immédiat aux États-Unis. Des élus réclament la révocation des visas de travail du groupe. Bientôt, la polémique gagne le Royaume-Uni. Là, ce sont les conservateurs qui s'en emparent. Vidéo à l'appui, ils ressortent d'autres propos tenus sur scène, interprétés comme un soutien au Hamas et au Hezbollah. Résultat, une série de concerts annulés en Angleterre et en Allemagne. Le groupe est même désormais visé par une enquête de la police antiterroriste britannique.
listening to you constantly. And in the future, will surely what you want to be. You're born to sound good, live your fantasy. Before they eat you up, especially you're the lafagy. Fan sucker, BG, Brasakas, clean it off, flan mucker. They'll be pushbacks, but relax, sucker. Cause short or real, sad day, you let the on, brother. It's the
philosophy. Et face à cette polémique, Cyril, les rappeurs ont reçu depuis le soutien de nombreux artistes.
À commencer par le groupe irlandais le plus en vue du moment, les Dublinois de Fontaines D.C., qui dénoncent dans une lettre ouverte une forme de répression politique. Le sujet n'est pas niqab, écrit le groupe, le sujet c'est Gaza et le silence des autorités face à ces crimes contre l'humanité. Fontaine D.C., très investi également en soutien à Gaza. Ils sont du genre à déployer le drapeau palestinien sur scène pendant leur concert. Ils l'avaient fait ici même à la maison de la radio, au studio 104, à un moment de la sortie de leur album. Ou encore de lancer un Free Palestine en pleine cérémonie de remise des Rolling Stone Awards.
Et un sentiment, Cyril, qui est partagé par beaucoup de musiciens irlandais, hein, à l'image d'ailleurs de l'opinion publique en Irlande.
Des Irlandais très majoritairement pro-palestiniens. C'est un sentiment bien ancré dans ce pays qui a connu l'occupation et où beaucoup s'identifient, ce qui a donné d'ailleurs naissance sur les réseaux sociaux à l'expression Padistinian, contraction de Paddy, diminutif de Patrick et de Palestinien. Rien d'étonnant donc à ce que les artistes soient en première ligne. Ils sont nombreux à s'exporter, à être à l'affiche de festivals, de concerts à travers le monde et beaucoup d'entre eux ont choisi d'utiliser cette notoriété depuis le 7 octobre, allant parfois jusqu'à boycotter des invitations de concerts aux États-Unis. De son côté, l'organisation Irish Artists for Palestine a choisi une façon plus douce, on va dire, de faire passer son message avec cet air traditionnel irlandais, vieux de 3 siècles, réinterprété par des artistes folk irlandais et deux musiciens de Ramallah venus à Dublin pour l'occasion.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau, on se retrouve la semaine prochaine.